Mais non, EUtalk, ce n'est pas encore fini pour ce soir. Vous êtes sur Fréquence Mistral 99.3 à Digne-les-Bains. Nouveau groupe pour de nouvelles aventures. Car oui, ce soir, sur ce plateau, je vous annonce tout de suite la couleur, on s'est lancé un défi. Vous en avez sûrement marre d'entendre tous les jours, matin, midi, soir, à la télé, dans les journaux, à la radio, que le monde va mal. Alors ce soir, on va vous montrer que dans ce monde qui peut paraître si sinistre parfois, il y a aussi des choses qui vont bien, des nouvelles positives. Bon, en résumé, ce soir, on est là pour se faire du...
Yeah !
Alors, tour à tour, ce soir, mes chroniqueurs vont vous raconter des nouvelles positives que nous avons sélectionnées. Mais tout d'abord, je vous propose qu'on en vienne aux présentations. Et on va pas le faire de manière banale. On va se présenter ce soir en donnant le détail le plus inutile qui soit sur nous-mêmes. Alors, pour ce faire, chers chroniqueurs, vous avez au centre de la table, comme vous pouvez le voir, une boîte. Cette boîte, elle contient des questions qui vont vous amener à donner un détail complètement inutile sur vous-même. Mais c'est pas grave, parce que ça va bien nous faire rire, parce que ce soir, l'objectif, c'est de se faire du...
Bien !
Commençons tout de suite par la première chroniqueuse, c'est Élise. Elle est très douce. Et Élise, dis-nous comment tu t'appelles ?
Alors, moi, c'est Élise.
Enchantée, Élise.
Et donc, le mot que j'ai pioché, c'est « Quelle est ma pizza préférée ?» Alors, ma pizza préférée, c'est la pizza hawaïenne. Je sais que beaucoup vont me juger pour ça, mais voilà, moi, j'aime bien les pizzas avec de l'ananas.
On ne juge pas. On ne juge pas ce soir sur Fréquence Mistral. On est seulement là pour se faire du bien. Alors, poursuivons maintenant avec la pétillante Océane. Océane, dis-nous comment tu t'appelles ?
Eh bien, bonsoir à tous. Moi, c'est Océane.
Enchantée, Océane.
Enchantée. Et alors, attention, information exclusive pour vous ce soir. J'ai pioché la... Quelle est la couleur de ma chambre ? Et donc, ma chambre est rose et grise, comme la couleur de la danse classique.
Super, merci Océane. On passe tout de suite à la dynamique Léandra. Léandra, comment tu t'appelles ?
Alors, moi, c'est Léandra.
Enchantée,
et
Léandra.
Ce soir, j'ai pioché la question « Si j'étais une plante ?» Donc, moi, si j'étais une plante, je serais une orchidée parce que ça fait des belles fleurs et que c'est ma plante préférée.
C'est sûr que là, on arrive vraiment à cerner ta personnalité. Et maintenant, passons au dernier. C'est l'aventurier de l'équipe. C'est Justin. Comment tu t'appelles, Justin ?
Je m'appelle Justin. Enchanté, et je suis Justin. En train de piocher mon papier. Alors, quelle est la pointure de tes chaussettes ? D'accord. Ça dépend de si on parle de chaussettes de ski ou pas. Pour mes chaussettes de ski, je prends toujours un petit peu plus grand, 45-47. Et pour mes chaussettes normales, je prends plutôt 45.
Donc, c'est tes chaussettes qui varient, mais pas la taille de ton pied, bien sûr.
Bien sûr.
Très bien. Merci beaucoup, chers chroniqueurs, pour ces présentations. Voilà qui est fait. Alors, si vous avez envie de vous faire du bien ce soir, chers auditeurs, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après une courte pause musicale et on commence avec Happy de Pharrell Williams ce soir sur Fréquence Mistral.
Come back news talking this and that.
Vous êtes sur Fréquence Mistral 99.3 à Digne-les-Bains. Vous êtes dans EUTOL parce que ce soir, vous avez envie de vous faire du...
Bien !
Alors, sans plus tarder, commençons avec notre première nouvelle positive de ce soir. Et étant un grand indécis, j'ai décidé qu'on ferait dans le même ordre que les présentations. Donc, on commencera ce soir avec la douce Élise pour la première nouvelle positive. Alors, Élise, que nous as-tu sélectionné ce soir ?
Alors moi, je vais vous parler du smiley. On connaît tous ce petit bonhomme jaune avec deux grands yeux et un large sourire. Mais d'où vient-il ? Alors, il faut remonter dans les années 60 pour comprendre. C'est un Américain, Harvey Ball, qui est missionné par une compagnie d'assurance pour améliorer le moral des employés. Il présente alors son dessin, qui est un rond jaune symbolisant un visage, souriant, et qui deviendra un symbole international.
Mais alors, explique-nous comment le smiley est aujourd'hui arrivé à l'icône qu'on connaît tous.
Alors, la compagnie, elle a imprimé les symboles sur des badges, sur des cartes de visite, sur des posters qui sont distribués aux employés et aux clients de l'entreprise. Et Harvey Ball, il s'arrête pas là, et en 1999, il crée la Journée mondiale du sourire pour promouvoir les actes de gentillesse, la sympathie de tous. Et cette journée, elle a lieu tous les premiers vendredis du mois d'octobre. Il se raconte que Ball n'aurait reçu que $45 pour cette création et n'en aurait tiré aucun bénéfice lorsque ce logo s'est diffusé massivement sur divers supports. Il a même oublié en fait de déposer les droits d'auteur. Et en 1972, il y a un journaliste français, Franklin Loufrani, qui dépose ce logo à l'Institut national de la propriété industrielle et qui l'utilise dans la presse. Il crée alors une société baptisée Smiley World et dépose l'effigie dans des centaines de pays, ce qui lui permet donc de faire fortune à la place de Ball. Après la mort d'Harvey en 2001, cette tradition elle a perduré et elle a encouragé de nombreux associés à se créer pour redonner le sourire et diffuser de bonnes ondes. Et aujourd'hui, les smileys sont devenus des emojis, des petites icônes très appréciées que l'on retrouve sous différentes apparences et expressions. Et les emojis, ils ont une place très importante dans notre communication digitale et on les retrouve partout dans nos messages pour exprimer nos émotions, représenter une action ou un personnage.
Mais d'ailleurs, Élise, aujourd'hui, tous ces sourires, on ne les retrouve pas que dans les SMS. Il y a plein d'autres endroits où on peut les trouver.
Bah effectivement, cette volonté de positivité et de bonheur, on peut la retrouver aussi dans la publicité. Avec le parfum, par exemple, La vie est belle de Lancôme, qui est incarné par Julia Roberts et son sourire rayonnant. On peut également parler de la chanson Happy qu'on vient d'entendre de Pharrell Williams, sortie en 2013 pour le film Moi moche et méchant 2. C'est une musique entraînante qui fait passer un message de bonheur et qui invite à être tout simplement heureux. Et on peut aussi parler dans le registre des romans de la citation « Il suffit d'un sourire pour que l'âme entre dans le palais des rêves » qui est issu du roman « Les Misérables » écrit par Victor Hugo, qui est une invitation à sourire. Donc voilà, une petite nouvelle qui donne le smile et surtout n'oubliez pas de sourire, ça aide à être de bonne humeur et à faire circuler de bonnes ondes ainsi qu'à être épanoui.
Tu nous as parlé de la journée du sourire, Élise, c'est bien ça ? Mais alors, concrètement, comment elle se passe cette journée ? Qu'est-ce qu'on doit faire ?
En fait, ce jour-là, l'objectif, c'est de faire sourire au moins une personne par notre gentillesse. Voilà.
Tu l'as fait ?
Effectivement, oui, bien sûr.
Alors, j'ai une petite question à poser à tous les chroniqueurs autour de cette table. Quand vous recevez un smiley, ça vous fait plaisir, vous ?
Moi, oui, mais alors... C'est peut-être maintenant devenu presque une marque de ponctuation dans les messages qu'on s'envoie, en tout cas entre nous. Moi, le smiley, c'est devenu une marque de ponctuation. J'en mets toujours les 3-4 qui reviennent le plus souvent. J'y fais même plus attention, en fait.
Pour toi, ça a perdu un peu de sens.
Ça a perdu le sens que ça avait à la base de positivité. Ouais.
Je vois que Océane, elle n'est pas tout à fait de cet avis. Toi, t'en penses quoi quand tu reçois un smiley ?
Non, moi, j'aime beaucoup, justement, un message sans smiley. Je trouve que c'est un message un peu fade. Voilà.
Vous êtes plutôt deux points parenthèses ou vraiment le smiley bien designé, tout jaune, vous êtes old school ou moderne plutôt ?
Alors non, moi je suis plutôt moderne avec le smiley qui rigole, le smiley qui envoie des cœurs.
Oui, les smileys modernes. Hein.
Et il y a personne qui deux points parenthèses comme moi, je suis vraiment le seul là autour de cette table ce soir ?
On non, croit.
Flavien, je crois que t'es le seul old school ce soir.
Super. Alors merci beaucoup Élise pour cette nouvelle. Et maintenant, on va pouvoir passer à la dynamique Léandra, qui a une bonne nouvelle à nous annoncer. Qu'est-ce que tu nous as prévu ce soir ?
Alors moi, pour vous, ce soir, j'ai pas une bonne nouvelle, mais j'en ai quatre.
Ah, quand même.
Et oui, Flavien, le commerce d'animaux sauvages a été revu par les autorités. Comme vous le savez, de nombreuses espèces sont menacées à cause de leur commerce. Un commerce qui est très souvent réglementé, voire interdit. Pour ces animaux, de nouvelles législations sont mises en place dans le monde pour les protéger et sauvegarder leur espèce dans la nature. Commençons par la grenouille de verre. À cause de leur peau semi-transparente qui permet de voir leurs organes, les grenouilles de verre d'Amérique latine sont de plus en plus recherchées comme animaux domestiques. Les importations ont été multipliées par 440 entre 2016 et 2021, rien qu'aux États-Unis. Cette menace s'ajoute au changement climatique et à la destruction de leur milieu de vie. Désormais, il faudra des permis pour vendre 158 espèces de ces grenouilles dans d'autres pays et les quantités vendues devront leur permettre de perdurer.
Alors là, ça fait une bonne nouvelle. Il y en a une suivante, du coup ?
Alors du coup, concernant les requins, comme les requins requiem, les requins marteaux, les raies-guitares, etc., les ventes internationales de 95 espèces vont être encadrées. Ces espèces sont massivement pêchées pour leurs ailerons ou leur viande. Il faudra désormais des permis de vente et les quantités vendues devront être adaptées à la survie de chaque espèce. Pour rappel, dans le monde, 37% des requins sont menacés d'extinction.
On en est à deux. Une petite troisième pour la suite ?
Alors, concernant les éléphants et le commerce d'ivoire qui se basait sur la vente des défenses d'éléphants d'Afrique, il reste interdit. Plusieurs pays proposaient la reprise des ventes, mais cette proposition n'a pas été adoptée pour préserver leur sécurité. En 2016, on comptait 111 000 éléphants de cette espèce en moins qu'en 2006. Selon l'ONG IFAO, qui est une association pour la défense animale, limiter le commerce légal d'ivoire réduit les risques de braconnage, car cela complique la revente de produits qui en sont issus.
Et bien sûr, pour la quatrième, je suppose que tu nous as réservé la meilleure.
Et enfin, pour les concombres de mer, comme l'holothurie ananas, l'holothurie géante et l'holothurie à ligne rouge, qui sont trois espèces de concombres de mer fortement pêchées, ils sont notamment séchés et coupés en lamelles pour être mangés. Pourtant, ces espèces oxygènent les fonds marins en les remuant. Les commerces de ces trois concombres de mer sera désormais encadré et devra être adapté à leur survie dans la nature. Et voilà, c'était mes quatre nouvelles positives concernant le commerce d'animaux sauvages. J'espère que ces nouvelles vous ont fait du bien.
Est-ce que ça nous a fait du bien ? Ça nous a fait du ?
Bien !
Alors moi, j'ai quand même deux petites questions qui me viennent, Léandra. Mmh. Tu nous as parlé tout d'abord de la grenouille de verre. Donc, c'est un animal de compagnie pour certains. On appelle ça comment déjà ?
On appelle ça les NAC, les nouveaux animaux de compagnie.
Et toi, tu en penses quoi des NAC ? Est-ce qu'il faudrait se limiter aux chiens et aux chats ou est-ce que ça peut tout à fait se justifier d'avoir envie d'avoir un serpent, une grenouille de verre même ?
Alors moi, je pense que... Avoir une grenouille de verre dans un bocal chez soi, c'est pas très commun. Et je vais mettre à dos beaucoup de fans de serpents ici ce soir. Mais je pense que c'est pas vraiment utile. C'est des animaux qui sont de base sauvages. Et qu'on... Certes, les chiens et les chats, on les a apprivoisés au fil du temps. Mais je pense qu'ils devraient rester dans leur état et leur milieu naturel.
Alors... Tu nous as parlé du concombre de mer à un moment. Alors moi, je suis curieux de savoir dans quelle région du monde on consomme ce produit.
Alors, on consomme ce produit en Asie et en Chine très souvent pour les grandes fêtes comme le Nouvel An, par exemple. Et ce qui est drôle, c'est que les plus gros élevages de concombres, parce que oui, on fait des élevages de concombres de mer, eh ben, ils sont situés en Afrique. Et le concombre de mer, il est mangé en bouillie.
Et toi, t'en penses quoi du fait que, pour des coutumes, on mange des espèces qui sont aujourd'hui menacées ? Est-ce que pour toi, la coutume, ça justifie qu'on puisse se permettre cela ou on devrait faire la part des choses ?
Alors, bah, pour moi, on devrait mettre de côté nos coutumes et peut-être même nos croyances pour préserver la planète qui nous accueille et qui nous permet de vivre au quotidien.
Merci beaucoup, Léandra, pour ces quatre bonnes nouvelles. Alors, chers chroniqueurs, vous allez avoir quelques minutes de repos, puisque pour la prochaine bonne nouvelle de ce soir, on a une invitée. Cette invitée, c'est Calista Marie.
Bonsoir.
Calista Marie, vous êtes présidente de l'AMAP des étudiants de Digne-les-Bains, nommée PANI-UT. Alors, avant d'en venir à pourquoi c'est une bonne nouvelle pour les étudiants, pour le bassin dinois, j'ai tout d'abord envie de vous demander, Calista, c'est quoi une AMAP ?
Alors, une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne qui a un but non lucratif et qui permet de distribuer à ses adhérents des paniers de fruits et légumes locaux et de saison.
Donc, ceux qui bénéficient de l'action de votre association, c'est donc des étudiants dinois. Et en quoi pour eux, c'est une bonne nouvelle ?
Alors, pour eux, c'est une bonne nouvelle parce que notre objectif est de distribuer aux étudiants, de proposer des paniers à des prix attractifs, des prix plus bas que des fruits et légumes que l'on peut trouver sur le marché ou en grande surface.
Et ces fruits et légumes, je suppose que ce ne sont pas ceux que l'on trouve justement dans les grandes surfaces. Qu'est-ce qu'ils ont de plus ?
Justement, alors notre objectif, c'est d'aider et de soutenir les producteurs locaux. Donc nos fruits, nos légumes, nos œufs, nos fromages viennent de producteurs locaux et donc ce sont des produits de qualité et de saison.
Et la MAP, donc c'est des étudiants, c'est des bénévoles, mais c'est aussi des agriculteurs qui collaborent avec vous. Qu'est-ce que ça leur apporte également à ces agriculteurs du bassin dinois ?
Alors, ça leur permet justement d'avoir une petite publicité puisque nous, notre point fort, donc c'est de distribuer donc des paniers locaux et de saison. Donc les étudiants, ils sont sensibilisés à ça et après, rien ne les empêche d'aller les voir et d'acheter leurs légumes sur le marché, etc.
Ça fait combien d'années que ça dure, cette AMAP ?
Alors, elle a débuté en 2018. Ce sont des étudiants de l'IUT qui l'ont créée.
Et donc, cette année, c'est vous avec une équipe de combien de bénévoles à sa tête ?
Alors, on est beaucoup, on est 45 cette année.
Ah oui, tout de même.
Ouais, parce que donc avant il y avait que les étudiants de génie biologique de l'IUT, sauf que maintenant ça s'est étendu avec les étudiants de GACO, donc de gestion administrative et commerciale, qui nous ont rejoints. Donc c'est grâce à toute l'équipe que la MAP fonctionne aujourd'hui.
Et est-ce qu'on peut avoir un petit inventaire du prochain panier, un avant-goût ?
Oui. Alors donc le prochain panier qui sera distribué samedi prochain ou lundi prochain pour ceux qui ne peuvent pas. Sera composé de 2 poireaux, de 4 ou 5 pommes, 2 oignons, de 6 œufs, de 500 grammes de pommes de terre et d'un petit fromage de chèvre.
Et donc tout ça accessible à des étudiants pour combien ?
Pour 7 euros.
Ah oui, c'est tout de même très avantageux. Et alors, on a quelques dernières questions pour vous. Comment on peut vous contacter lorsqu'on est agriculteur et qu'on est intéressé ou même qu'on est étudiant pour avoir les informations ?
Alors, nous avons un compte Instagram qui s'appelle PANIUT, donc PANIUT.digne-les-bains. Et c'est ici que circuleront toutes les informations concernant les prochaines distributions.
Donc, on l'a compris, la collecte, c'est pour les étudiants de l'IUT. Les bénévoles sont des étudiants de l'IUT, mais je suppose que c'est ouvert aussi maintenant ou même prochainement à d'autres étudiants de Dinois ?
Oui, voilà, notre objectif, c'est d'étendre la distribution à tous les étudiants de Digne-les-Bains et aussi au personnel des universités de Digne.
Super. Et donc, la prochaine collecte, c'est pour quand ?
Alors, c'est pour samedi prochain.
Merci beaucoup, Calista Marie, pour votre venue sur Fréquence Mistral ce soir. Alors, chers auditeurs, je suppose que vous avez envie d'entendre plein d'autres bonnes nouvelles. Eh bien, figurez-vous que c'est tant mieux, puisqu'on en a encore plein pour vous ce soir. Mais tout d'abord, on s'accorde une petite pause musicale avec le magnifique Gilbert Montagnier et les Sunlines des Tropiques sur Fréquence Mistral. We'll be right back. Vous êtes sur Fréquence Mistral 99.3 à Digne-les-Bains et vous êtes dans IU Talk, l'émission des étudiants de l'IUT de Digne-les-Bains. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez envie de vous faire du...
Bien !
Bon, chers chroniqueurs, ne croyez pas pour autant que la soirée était finie. Les basalpins ont encore besoin de nous ce soir pour avoir la pêche. Alors, pour ce faire, on va tout de suite poursuivre avec la nouvelle de la pétillante Océane. Océane, que nous as-tu prévu ce soir pour qu'on ait le sourire ?
Alors Flavien, avec ma nouvelle positive, je vous emmène sous les tropiques, et non dans l'océan Pacifique comme Gilbert Montagnier, mais dans l'océan Indien. C'est là-bas que des chercheurs de la Société Zoologique de Londres ont mis en évidence la contribution des dauphins à long bec dans la protection et la résilience des récifs coralliens. Et devinez grâce à quoi ?
Alors, ayant été très assidu en cours de thermodynamique, je dirais que ces dauphins, en remuant l'eau au voisinage des coraux, ils enlèvent des calories... Non, je déconne, je connais rien. Vous avez une idée ?
Moi, je pense que c'est peut-être parce qu'ils mangent des poissons qui pourraient nuire aux coraux.
Alors, pas tout à fait.
Moi, j'ai vraiment aucune idée. Hein.
Est-ce que ce serait pas, je sais pas, par rapport à leur caca ?
Exactement, Justin, grâce à leur déjection. Alors oui, ça peut paraître un peu surprenant dit comme ça, mais je vous explique tout. D'abord, cette découverte s'est faite dans les lagons des atolls des archipels des Maldives et des Chagos, situés au nord de l'océan Indien. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un atoll, c'est une île corallienne qui a une forme annulaire et qui abrite en son centre un lagon de faible profondeur. Mais faisons un petit point sur nos coraux. Si on s'intéresse tant à la protection des récifs coralliens, c'est d'abord parce qu'ils soutiennent la majeure partie de la biodiversité des océans. Et ils assurent aussi les moyens de subsistance de millions de personnes. Mais c'est pas seulement ce qu'ils font. Ils protègent également les côtes des tempêtes et de l'érosion, fournissent des emplois aux communautés locales et sont une richesse touristique. Cependant, divers facteurs de stress, ça peut être le changement de température, de lumière ou de nutriments qui peuvent être dus notamment au changement climatique actuel, entraînent le blanchissement des coraux et leur mort massive. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois morts, les récifs ont beaucoup de mal à revenir. Mais alors, nos dauphins dans tout ça ? En fait, les scientifiques ont pu, grâce à des observations visuelles et des enregistrements sous-marins, retracer la journée type d'un dauphin à long bec, qui est le cétacé le plus abondant dans les récifs des atolls de l'océan Indien. Et ils se sont rendus compte qu'après s'être nourris durant la nuit, les dauphins à long bec viennent passer la journée dans les lagons des atolls pour s'y reposer. Et c'est notamment dans cette zone qu'ils vont déféquer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que leurs excréments sont très intéressants, puisqu'ils sont une source d'azote nourrissant. Alors, en prenant en compte tout un tas de paramètres, les chercheurs ont estimé qu'un groupe de dauphins apporte environ 288 kg d'azote par an, soit environ le poids de 3 à 4 hommes. C'est donc grâce à cet apport nutritif vital pour les coraux que le dauphin à long bec pourrait jouer un rôle important dans la résilience des coraux.
C'est incroyable, on vient d'apprendre ce soir que le caca de dauphin rendait le monde meilleur. Mais alors, Océane, juste histoire qu'on se situe, on en est où actuellement sur l'état des coraux dans le monde ?
Alors, on estime qu'entre 2009 et 2018, environ 14% des coraux sont morts et ce déclin s'observe partout dans le monde.
Donc, si je comprends bien ce que tu viens de nous apprendre, Océane, si on protège les dauphins, finalement, on en viendra à protéger les coraux.
Exactement, Flavien. C'est le cas d'une espèce parapluie. En protégeant cette espèce, les coraux sont protégés et on protège également toute autre espèce qui y abrite, qui y vive.
Alors tout ça, ça signifie que les coraux, ça y est, ils sont sauvés ou le chemin va être encore long ?
Alors, c'est que le début des recherches. D'autres recherches sont prévues pour préciser les résultats et notamment... savoir où se situent ces dauphins dans le monde.
Bon, ben merci beaucoup Océane pour cette nouvelle assez intrigante et incroyable, mais qui donne quand même le sourire, qui nous a fait du...
Bien !
Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons ! Alors, l'heure tourne, la fin de l'émission approche, mais rassurez-vous, on en a encore quelques-unes pour vous ce soir. Et d'ailleurs, Justin, on va finir avec toi, Justin l'aventurier. J'espère que tu nous as sélectionné la nouvelle qui va nous donner la banane pour finir en apothéose ce soir. De quoi vas-tu nous parler ?
J'espère. Alors moi, je vais vous parler de la redécouverte d'une espèce disparue, présumée disparue. Donc c'est le pigeon faisan à nuque noire, une espèce qu'on n'avait pas vue depuis 140 ans et elle a été filmée très récemment, fin août, début septembre, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, plus précisément sur l'île Ferguson. Alors c'est une espèce qu'on présumait disparue, mais il y avait eu des ornithologues qui disaient en avoir vu. Et donc des recherches plus précises ont été faites par l'association ABC Birds, et notamment les chercheurs qui y travaillent, par exemple Jason Gregg, qui a été le premier à publier sur les réseaux sociaux des images de l'oiseau. On y voit un oiseau qui marche sur le sol, sur la litière de la forêt de Papouasie. Un oiseau qui correspond bien à son nom, puisque c'est vraiment le mélange entre un pigeon et un faisan. Tout son corps est noir et ses ailes sont vert émeraude. Alors c'est très intéressant, et ça a demandé quand même beaucoup de travail, parce qu'il a fallu un mois d'analyse des images aux chercheurs pour affirmer qu'il s'agissait bien de la bonne espèce qui avait été redécouverte. Ça va conduire à des recherches plus avancées, puisque pour l'instant, on ne sait pas si l'espèce est assez développée, a assez de génétique dans tous les individus, pour avoir une espèce qui est viable sur le long terme.
Super, merci Justin, c'est quand même incroyable, 140 ans après qu'on redécouvre cette espèce. Alors Justin, aujourd'hui, les espèces disparues, on en est où ?
Bah, alors, pour les espèces disparues, c'est un peu compliqué d'avoir des estimations. Sur ce qu'on peut dire, au minimum, on serait à 116 000 espèces disparues depuis 1500 après Jésus-Christ, ce qui fait quand même un gros chiffre. Mais c'est une tendance qui continue et qui s'accélère même d'année en année.
Alors, on a vu par ta chronique qu'il y avait des animaux qui disparaissaient. Mais je suppose qu'aujourd'hui, les chercheurs, avec la science, en trouvent également tous les jours, enfin, du moins quand même assez fréquente. Est-ce que le fait de trouver des nouvelles espèces végétales, animales, ça vient compenser celles qui disparaissent, ou est-ce que c'est vraiment une fausse question et la biodiversité ne se compense pas ? Enfin, alors, la perte de biodiversité ne se compense pas.
Bah, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que la perte de biodiversité ne se compense pas, puisque... Bah, les espèces étaient déjà présentes, même si on ne les avait pas découvertes, elles étaient déjà présentes. Donc on n'en crée pas d'autres pour compenser celles qu'on a fait disparaître ou qui ont disparu naturellement. Et donc non, la perte de biodiversité ne se compense pas. Par contre, on peut s'intéresser plus aux espèces qui sont découvertes. On en découvre tout le temps, et les chercheurs ont trouvé des moyens un peu attirants pour que tout le monde s'y intéresse. C'est notamment le cas du lézard Jackie Chan qui a été découvert. Et vous voyez, ça vous fait tous rire, donc vous êtes intrigués. Et c'est le but des chercheurs qui donnent des noms de célébrités à des espèces animales et végétales pour que le monde s'y intéresse et que la conservation aille dans leur sens pour le futur, et donc pour conserver au mieux toutes ces espèces qui sont découvertes récemment.
À quand le concombre de mer, Justin l'aventurier, j'ai envie de demander.
Ah bah, on verra quand je serai riche et célèbre.
Alors, quand tu nous parles de tout ça, Justin, une espèce que l'on retrouve 140 ans après sa disparition présumée, moi ça me fait penser à d'autres noms, tels que le dodo qui a disparu au Moyen-Âge, tels que par exemple le grand pingouin de manière plus récente. Est-ce que tu penses que, là on a retrouvé une espèce 140 ans après, est-ce que ça va être le cas pour d'autres espèces ou c'est le fruit du hasard ?
Alors, c'est pas vraiment le fruit du hasard. On a redécouvert cette espèce-là parce qu'il y avait une espèce très proche qui lui ressemblait, qui vivait dans les mêmes milieux, qui subsistait encore, et donc les confusions étaient possibles. Et les recherches ont mis longtemps pour tomber sur la conclusion que c'était bien l'ancienne espèce qui avait disparu il y a 140 ans qui avait été retrouvée. Pour le cas du dodo, c'est assez... voire impossible. Impossible n'est pas vrai, mais... c'est presque impossible, puisque le dodo, c'est un animal très singulier. On ne peut pas le confondre avec un autre animal. Et dans les milieux où on pourrait le retrouver aujourd'hui, par exemple à La Réunion, n'importe qui pourrait observer le dodo de loin, dirait c'est un dodo. Et donc des recherches seraient conduites sur la localisation et on pourrait retrouver. Donc c'est peu probable pour le dodo ou le grand pingouin, qui est un oiseau migrateur qui passe le long des côtes, qui donc est plus facile à observer que les oiseaux qui se terrent comme le pigeon faisant un nuque noire dans les forêts, au fin fond des forêts très denses. Le grand pingouin serait sur les côtes et serait donc facilement observable par les passionnés d'ornithologie. Et donc, c'est quand même peu probable pour ces espèces-là. Par contre, pour toutes les espèces qui ont des parents proches dans les espèces qui se ressemblent, qui vivent dans des endroits un peu terrés, oui, c'est possible de retrouver des espèces qui ont disparu. Et c'est le cas, l'exemple est parfait ici.
Merci beaucoup, Justin, pour cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle nous a fait du...
Bien !
Ouais, c'est le principe de ce soir. Alors, à votre avis, on en a fini ou on n'en a pas fini ? Bah oui, tous les chroniqueurs sont passés, notre invité est passé, mais il nous reste encore un peu de temps. Et bah figurez-vous, chers chroniqueurs, que, afin que ce soit juste quand même entre nous, qu'on reste en bon terme à la fin de cette émission dans l'équipe, je me suis prêté à l'exercice, et moi aussi, j'ai essayé de trouver une bonne nouvelle.
C'est pas vrai.
Eh ben si, figure-toi, c'est un...
Magnifique.
C'était impossible.
J'attendais que ça.
Alors ce soir, j'ai une petite nouvelle à vous prononcer, une bonne nouvelle. Et puis elle a un lien avec notre domaine d'étude qui est... On est étudiant en quoi par ailleurs ?
En agronomie.
Un domaine formidable, bien sûr. Alors cette nouvelle, elle nous vient d'un journaliste qui s'y nomme Sibi Arasu. Sibi Arasu est journaliste dans l'agence Associative Press aux États-Unis. Et Sibi Arasu, la semaine dernière, il s'est rendu en Inde, dans le sud de l'Inde, plus précisément, dans la région d'Anantapur. Et là, il est allé à la rencontre de Ramesh. Alors Ramesh, il est agriculteur.
C'est qui ?
Eh bien, il est agriculteur. Et tu vas voir qu'il va être au centre de cette nouvelle. Parce que Ramesh, cette nouvelle, tout commence sur une image. Elle commence avec l'image de Ramesh qui prend une poignée de sol dans sa main, qui se tourne vers le journaliste, Sibi Arasu, et qui lui dit « Regarde, ce sol, il est comme une éponge. Il absorbe l'eau et il y a de la vie, il y a des vers de terre. » Alors là, vous me regardez, vous dites sûrement « Mais qu'est-ce qu'il dit ? Enfin, ça devrait être le cas de tous les sols agricoles, jusque-là, tout va bien. » Eh bien, figurez-vous que non. Ce n'est pas anodin. Quand Ramesh prend cette poignée de sol avec des vers de terre et qui dit « il est fertile, il est comme une éponge », parce qu'il y a 7 ans, Ramesh n'aurait pas pu faire cela. Il y a 7 ans, Ramesh aurait présenté le sol comme étant dur comme une brique. Alors vous vous demandez sûrement comment on en est arrivé à une telle situation, puisque la situation de Ramesh, elle n'est pas anodine dans le sud de l'Inde. Énormément d'agriculteurs sont dans le même cas de lui, c'est-à-dire avec des terres qui ne produisent plus, des terres qui sont comme des briques, et... des terres dont on ne tire plus rien et donc plus de subsistance pour leur famille. Alors ça, c'est dû à un mot dont on parle assez peu en ce moment même et qui tient en un mot. Est-ce que vous avez une idée par hasard ?
Pas du tout.
Non, vraiment pas.
Eh bien, c'est la désertification. Alors en effet, on en entend très peu parler en Occident. La désertification, c'est quoi ? Ben, la désertification, ça s'inscrit avec le réchauffement climatique. Si vous voulez, les températures augmentent, donc les sols se réchauffent plus vite, l'eau s'évapore plus vite des sols, ils deviennent de plus en plus secs, et le changement climatique entraîne un dérèglement du climat, et les pluies, en fait, elles sont de plus en plus variables en Inde et dans plein d'autres régions des pays du Sud. Et donc forcément, ça a des grosses conséquences sur les sols. Et puis, c'est pas tout. Ces problèmes de sol, de désertification, ils sont exacerbés par des pratiques inagricoles inadaptées qu'on a confiées à ces agriculteurs indiens au sortir de la guerre avec la Révolution verte. Et finalement, ces agriculteurs, on a fait reposer toute leur agriculture sur le tout chimique, sur le tout mécanique. Et on en a oublié que si on voulait un sol fertile, fallait de la matière organique. Alors pour les néophytes, la matière organique, ça serait ce qu'on qualifierait de fumier, de compost, pour pouvoir faire en sorte que le sol il soit fertile et qu'il absorbe l'eau. Et donc, la question maintenant, c'est comment, 7 ans après, Ramesh a pu de nouveau prendre une poignée de sol dans sa main ? Eh bien, il y a des associations dans ces pays qui apprennent de nouveau aux agriculteurs des pratiques qui sont plus durables et qui finalement sont héritées d'un temps qui vient d'avant la guerre mondiale. Et donc, on leur apprend à de nouveau mettre de la matière organique dans les sols. On leur apprend l'agroforesterie, c'est-à-dire comment cumuler la culture des arbres et des céréales. Les arbres permettent de faire de l'ombre, ça évite le dessèchement des sols. Enfin, tout un tas de pratiques qu'il a fallu réapprendre à ces agriculteurs. Alors, le cas de Ramesh est positif, c'est une bonne nouvelle quand même pour toutes ces personnes, sachant que les Nations Unies décrivent la situation à l'heure actuelle comme 40% des personnes qui subissent la désertification dans le monde, ce n'est pas rien. Mais malheureusement, le chemin va peut-être encore être un peu long, puisque Sibi Arasu, lorsqu'il s'est déplacé pour aller voir Ramesh dans le sud de l'Inde, au moment où il discute avec Ramesh, passe un camion d'une grande firme d'agronomie qui propose bien sûr des pesticides, des engrais pour fertiliser les sols, et qui bien sûr ont des méthodes commerciales qui sont très bien rodées, mais qui ne présentent jamais le revers de la médaille. Et les agriculteurs se laissent encore beaucoup tenter par ces promesses alléchantes. Voilà. Donc c'était l'histoire de Ramesh, cet agriculteur qui de nouveau peut nourrir sa famille, qui de nouveau peut exploiter ses sols, en ayant réappris des pratiques, j'ai envie de dire, qui ne datent pas de si loin, mais qu'on a oubliées. Mais c'est quand même fou quand même qu'on n'en parle pas autant des sols, des enjeux autour des sols. Alors j'ai envie de vous demander, autour de cette table, on est étudiant en agronomie, les sols ça nous parle, mais est-ce que avant d'être étudiant en agronomie, vous aviez conscience qu'il y avait autant d'enjeux autour du sol ?
Moi, je triche parce que ma mère, c'est son métier. Elle s'occupe elle est chercheuse et elle travaille dans ce domaine-là, donc des sols et de la fertilité des sols. Donc moi, je triche, je savais.
Mais du coup, je suppose que ta mère, quel est son nom ?
Isabelle Basile Dulch, voilà.
Qui travaille au CNRS, si je me souviens
non,
bien.
Non, elle est à l'INRA.
À l'INRA, pardon. Et donc... quels sont les résultats de ces travaux actuellement ? Est-ce qu'on trouve que...
Je m'occupe plus de ça. Maintenant que je suis plus dans les repas à table, je sais pas vraiment ce qu'elle fait en ce moment. J'ai été très sensibilisé très jeune à la vie des sols et on a toujours eu un potager en faisant attention à la vie du sol et à ce qu'on mettait dans notre sol pour produire au mieux avec une meilleure qualité.
Est-ce que vous croyez pas qu'aujourd'hui... on en oublie quand même que l'agriculture, c'est ce qui nous nourrit. Enfin, je veux dire, si on est là autour de cette table ce soir, c'est parce qu'il y a des agriculteurs qui produisent de la nourriture. Je pense que si on se retrouvait cueilleurs-chasseurs dans les rues de Digne-les-Bains, on s'en sortirait pas vivant. Mais est-ce que vous pensez que la société n'a pas conscience que le sol nourrit les plantes qui nous nourrissent, le sol nourrit les plantes qui nourrit les animaux qui nous nourrissent ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être communiquer un peu plus sur ces enjeux ?
Oui, effectivement, je pense que c'est une bonne idée de rappeler cela.
Bon, merci beaucoup pour votre avis. Voilà, j'espère que j'ai été bon à l'exercice. N'étant pas chroniqueur, j'espère avoir relevé le défi haut la main. Eh ben, je pense que l'émission, malheureusement, touche à sa fin. Alors, je pense que ce soir, on peut quand même se dire que le défi qu'on s'est posé au début de cette émission est relevé, puisque ce soir, je pense qu'on peut l'affirmer. On a vu que le monde n'était pas complètement maussade et ce soir, on s'est fait du
bien.
Eh oui. Même si les médias n'en donnent pas toujours l'impression, vous avez vu qu'il y avait des choses positives dans le monde malgré tout et peut-être qu'il faudrait voir le verre à moitié plein plutôt que à moitié... Comment on dit déjà ?
À moitié vide.
Plutôt à moitié plein
qu'à moitié vide.
Ah, j'étais bon, ça va, j'étais
bien parti. Bien joué.
Bon. Alors, moi, j'ai envie de vous donner une citation ce soir, quand même, puisque en entendant toutes ces histoires des hommes, des femmes qui ont rendu le monde meilleur, qui ont fait des découvertes, il y a un très grand informaticien qui se nomme Steve Jobs qui a dit « Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent ». Et vous pensez pas que c'est carrément notre cas, quand même ? On est bien barrés autour de cette table. Alors, moi, je pense qu'on n'a plus qu'à quitter le plateau et aller faire de notre mieux pour rendre le monde meilleur. Mais avant tout, quand même, on va prendre congé de nos auditeurs comme il se doit, en musique. Et ce soir, pour se quitter, chers auditeurs, ce sera avec I'm So Excited de Sound of Legend. C'est un remix. Je vous remercie pour votre écoute. Vous êtes sur Fréquence Mistral 99.3 à Digne-les-Bains. Vous étiez dans EU Talk, l'émission des étudiants de l'IUT de Digne-les-Bains. Et ce soir, on le rappelle, vous vous êtes fait du...
bien !
Sound of Legend tout de suite avec I'm So Excited sur Fréquence Mistral.
We're gonna make it happen. Tonight we'll put all other things aside. Give him this time and show me some affection. We're going for those pleasures in the night. I want to love you, feel you, wrap myself around you. I want to squeeze you, please you. I just can't get enough. And if you move real slow, I'm
squeeze you, please you. I just can't get enough. And if you move real slow, I let it go.
Fréquence Mistral, ma radio, mon pays. 99.3.